Pour que votre vie soit plus belle, tous les après-midi de 14h à 15h, et si on allait mieux, avec François Démier et ses invités.
Bonjour à tous, un nouveau numéro de décision on allait mieux sur BTLV, toujours avec Max.
Toujours.
Bon, tu vas poser des questions enfin aujourd'hui?
Oh, ben genre, j'en pose jamais.
Bon. Donc, pour me proposer des thèmes, c'est simple, il suffit de m'écrire à françois@btlv.fr.
Pour contacter François Démier, envoyez un mail à françois@btlv.fr.
Bonjour Angélique Thirier.
Bonjour François.
Ravi de vous recevoir. Vous êtes psychothérapeute intégrative, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Sexothérapeute.
Oui.
Lifestyle coaching.
Lifestyle coaching.
Lifestyle coaching, ah ouais. Oui, c'est vrai.
Parce que c'est du coaching.
Je ne suis pas américain ni anglais.
Coaching
donc,
de vie, oui.
Voilà. Je suis heureux de vous recevoir, parce qu'on va pouvoir faire connaissance pendant cette heure de vos différentes activités. Et puis j'ai vu en allant sur votre site qu'il y a beaucoup de choses.
Oui.
Donc au départ, comment tout cela a-t-il commencé pour vous?
Oh, comment tout ceci a commencé? C'est-à-dire, si je pars de mon enfance, ma jeunesse, mon adolescence...
À partir de quel moment vous avez décidé de bifurquer dans cette voie?
En fait, ça a commencé toute jeune. Quand j'étais enfant, ado, je commençais déjà à m'intéresser à des choses plutôt spirituelles, ce qu'on peut appeler aussi l'énergétique.
Alors, comment ça vous est venu? Étant jeune, c'était à l'époque, c'était... On parlait plutôt de magnétisme que d'énergie. Quoi.
Oui, de magnétisme. Mais en fait, moi, j'ai la chance d'avoir une grand-mère qui est sophrologue.
Donc, ça aide.
Elle est sophrologue. Mmh. Elle était sophrologue et astrologue. Mmh. Donc, toutes ces choses-là, je les ai découvertes à mon adolescence, quand j'avais environ 15 ans. Et donc, avec elle, j'ai pu apprendre la sophrologie parce que j'ai participé à des séances en tant que cobaye, entre guillemets. Et voilà, c'est de cette manière que j'ai découvert toutes ces choses un peu paranormales.
Mmh. Et alors, qu'est-ce que ça de paranormal, la sophrologie?
À ce moment-là, quand j'avais 15 ans, c'est-à-dire il y a...
C'était hier.
C'était des choses qui étaient parallèles, peut-être pas paranormales, mais voilà, ça faisait partie des thérapies, des médecines alternatives, comme ça l'est encore aujourd'hui.
D'accord, qu'est-ce qui vous a attiré alors?
Moi, ça m'a ouvert, ça m'a permis de découvrir, et puis ça a attisé ma curiosité, et puis je pense aussi que ma personnalité, elle est aussi faite en fonction de ça que je suis attirée par ce genre de choses. Et j'ai continué ensuite avec des lectures à m'y intéresser. Je me souviens, par exemple, bon ça c'est autre chose, mais à 17 ans par exemple, je m'amusais à tirer les tarots de Marseille, ensuite à faire moi-même des séances de sophro en fonction des arcanes des tarots. Et puis après, plus tard, quand j'ai eu 20 ans, c'est-à-dire il y a 18 ans, j'ai découvert le livre qui a eu un gros succès, c'est La prophétie des Andes de James Redfield. Donc là, il y a 18 ans, c'était vraiment une ouverture sur la conscience avec ces révélations, avec les énergies et puis les différentes dimensions et les états de conscience modifiés. Donc tout ça a fait que ça a été mon cheminement qui a commencé et puis qui a continué au fur et à mesure. Et puis ensuite, moi-même, j'ai commencé une thérapie. Je suis allée voir un thérapeute énergéticien. Et puis j'ai fait une thérapie aussi sur moi, psychothérapie.
C'est étrange, vous étiez déjà au départ, vous êtes déjà une grand-mère qui était là-dedans. Vous avez quand même besoin d'une thérapie. Donc le terrain était compliqué, alors, si j'ai bien compris.
Oui, compliqué, si on peut dire ça comme ça. Hein. J'ai pas eu une enfance facile. Et voilà, il y avait des blessures, il y avait plein de choses que j'avais besoin de voir en face à face avec un psy et de réparer.
Mais professionnellement, vous étiez dans quelle voie, toujours dans cette voie-là?
Alors non, moi quand j'ai commencé avec le commerce, avec la vente, des choses très accessibles.
Très matériel.
Ouais, exactement, j'ai arrêté l'école super tôt parce que déjà je tenais pas assise dans une classe à écouter les profs. Pour moi c'était super dur, j'avais besoin de découvrir la vie assez tôt. Et puis le système de l'éducation nationale, déjà j'avais un petit peu de mal. Je me souviens, j'ai une anecdote comme ça, c'était... En cours de physique, on apprenait l'électricité. Alors là, l'électricité avec les pôles plus et négatif. Et je me souviens, je racontais à ma mère, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut apprendre des choses aussi basiques en classe? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le magnétisme, c'est ces choses-là. Mais pourquoi on n'en parle pas?
Pourtant, l'électricité, c'est complètement surnaturel. Moi, j'ai toujours pas compris comment ça fonctionne.
Moi, j'ai pas vraiment appris, mais les circuits électriques, aujourd'hui, ça me servirait pas trop dans la vie de tous les jours. Mais en fait, moi, ce qui me permet de me souvenir, c'est qu'à ce moment-là, j'étais, Voilà, le magnétisme aujourd'hui, c'est le domaine de la physique quantique. Mmh. Et je vois aujourd'hui, dans mes pratiques, j'ai aussi des choses qui font partie de la physique quantique, qui sont reliées à la reprogrammation de l'ADN. Et ça s'appelle le coaching de convergence. Mmh. Quand j'avais 15 ans, je fais le lien et je me dis, à cette époque-là, voilà, il y avait déjà les graines.
On n'en parlait pas à l'époque déjà.
On n'en parlait pas, mais bon.
C'est récent quand même.
C'est ça, mais. Bon, je peux sentir que j'avais ces graines qui étaient déjà là depuis longtemps. Et puis, d'avoir été en thérapie et d'avoir travaillé sur moi et d'avoir bénéficié de cette évolution, pour moi, ça a été une grande richesse. J'ai vraiment beaucoup de gratitude pour tout ce travail que j'ai fait sur moi et de l'avoir commencé tôt. C'est vraiment un gros nettoyage et puis une belle ouverture. Et au fur et à mesure, à ce moment-là, dans mon cursus, j'étais dans la vente, j'étais dans le commerce, puis à 25 ans, j'ai dit stop, j'en ai marre de tout ce business qui n'a pas vraiment de sens pour moi et je vais faire que des choses qui me plaisent, quoi. Donc, en priorité, ça a été l'artistique. Ça a été la danse, ça a été du théâtre. Et en parallèle, à côté, j'ai aussi commencé des cours d'acteur. Bon, j'ai pas persévéré parce que la caméra, j'ai un petit peu de timidité avec ça.
Et, il faut résoudre ce problème, alors.
ouais, ça va venir.
On va le résoudre dans quelques instants.
Et voilà, et donc je continue donc le cheminement. Et puis en parallèle de ce cursus, j'ai commencé à travailler comme danseuse. Et là, à côté, j'ai commencé à me former en tant que coach. Et ma première formation de coaching, un coaching personnel, coaching de vie, pour accompagner les gens. Donc, c'était une formation très solide qui m'a donné une bonne base, une bonne structure. Et après cette formation, je ne me suis pas arrêtée là, quoi. Je me suis dit, non, je continue, c'est bon.
Et mais pendant ce temps-là, il faut vivre, il faut manger. Alors, ce n'était pas difficile d'abandonner une...
Non, je n'ai pas abandonné. Je continuais à danser, à danser la nuit. Et voilà, j'avais cette carrière de danseuse qui était très épanouissante aussi. Et puis à côté, je poursuivais mes activités de coach. Et ensuite, dans la thérapie, la psychothérapie intégrative, cette formation que j'ai commencée il y a 4 ans et qui m'a ouvert aussi sur plein de domaines très, très intéressants comme la sexothérapie et puis le transpersonnel. Là. Mais bon, ça, c'est une pratique que j'ai déjà depuis 25 ans, comme la méditation, par exemple. Et que j'ai commencé lorsque j'avais 25 ans. Et puis là, que j'intègre tous ces bénéfices dans mon accompagnement avec les personnes.
Alors aujourd'hui, vous recevez des personnes et vous les aidez, si j'ai bien compris?
Oui, c'est ça, en tant que thérapeute, des séances individuelles.
Alors à partir de quel moment, c'est quand même une grosse responsabilité, je pose pratiquement toujours cette question à mes invités, à partir de quel moment on se sent capable de pouvoir justement aider les autres et le faire d'une manière professionnelle? Est-ce qu'il y a un déclic quelque part?
Alors pour moi le déclic, parce que je pense que pour... chacun, ça peut être différent.
Moi, c'est pour ça que je pose toujours la question, parce qu'à chaque fois, c'est une aventure différente.
Moi, mon déclic, en fait, ça a été de voir ce que j'ai pu apporter à mes amis dans la vie de tous les jours. Avant même de commencer ma première formation de coach, je me rendais compte que tous les bénéfices que j'avais avec le travail que je faisais sur moi, en thérapie, en méditation, je voyais que dans les relations que j'avais avec mes amis proches ou mes copains, tout simplement... Il y avait vraiment quelque chose qui se créait chez eux directement dans leur vie, un changement qui était palpable, visible.
Quel type de changement? Vous avez des exemples?
Ouais, j'ai un exemple. Un ami, par exemple, c'est un bel exemple. Et là, ça me touche vraiment au niveau du cœur parce que c'est très beau de la manière dont ça a changé sa vie. Un ami, au moment où j'étais avec lui, il avait des addictions, comme certaines personnes qui travaillent la nuit peuvent avoir. Et lui, donc, il n'avait pas une vie saine du tout. Et en ayant été à mon contact pendant 6 mois, on a eu une relation de 6 mois à ce moment-là. Après notre relation, il a commencé à se poser des questions, à avoir un déclic, et puis à se rendre compte que, avec moi, il a vécu autre chose, il a touché autre chose, il a senti autre chose. Il y avait une autre qualité de vie, peut-être, quelque chose qu'il n'avait pas touché auparavant avec d'autres personnes. Et ça lui a donné envie de comprendre. Et puis, on est restés très proches. Et nos échanges, ça a été d'une autre manière. Et petit à petit, il a complètement... Enfin, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain.
Oui,
ça a pris quelques mois et années, voire 2 ans. sur lesquels ben, il a vraiment laissé toutes ses addictions, que ce soit. Mmh. Il s'est mis au yoga et aujourd'hui, voilà, il est complètement sobre, il est frais, il a changé ben, d'attitude, de posture, d'apparence. C'est juste magnifique. Et puis, c'est quelqu'un qui a un cœur énorme et toutes ses qualités, ben, aujourd'hui, il peut en faire bénéficier tout son entourage. Quoi. C'est juste magnifique de voir ça. Voilà, c'est comme une renaissance.
Mais donc, et ça prend du temps. Donc.
Ça prend du temps, mais bon, voilà. Je ne dis pas que c'est que grâce à moi, mais y a, voilà, c'est quelque chose qui s'est passé. Et c'est pas que la seule chose. Voilà. C'est pas que le seul ami ou que la personne de mon entourage, mais c'est aussi ça qui a fait partie du déclic de me former et de l'appliquer de manière professionnelle. Et d'en faire une capacité professionnelle, que ce soit pas uniquement que mes amis qui en bénéficient, pas uniquement mes amis ou ma famille, mais que je puisse partager ça à des personnes qui ont besoin d'aide et tout en restant moi-même, est-ce que je suis capable d'offrir avec ce que je suis, tout simplement, quoi.
Alors, qui vient vous voir? Il y a un profil type de personne? C'est plutôt des femmes?
Oui, j'ai des femmes, mais là, c'est vrai que c'est essentiellement des hommes en ce moment, en moyenne 35-40 ans.
C'est la période des problèmes?
Non, c'est pas la période des problèmes, mais il y a beaucoup de remises en question et beaucoup de questionnements sur la place de la masculinité aujourd'hui, sur la place de l'homme aujourd'hui dans la société. Parce que la femme, bon, elle est dans son évolution. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'ère du féminin divin et toute cette ère du Verseau où il y a beaucoup de choses qui émergent au niveau de la position de la femme et puis la puissance que la femme aujourd'hui elle doit saisir pour reprendre sa place dans la société patriarcale. Et à côté de ça, eh ben il y a des hommes qui se sentent un petit peu déstabilisés aussi parce que il y a cette part de féminin divin, ce côté yin en eux qui aussi émerge, aussi a besoin de s'exprimer. Alors ça passe par la sensibilité, les émotions, des autres choses qui vont les intéresser, qui sont plus subtiles, plus sensibles, et puis aussi une remise en question où ils vont avoir besoin de plus d'authenticité, des autres choix de vie, et ils se rendent compte que la société, ben c'est pas ce qu'on voit quoi dans la masse de la société, donc ils sentent aussi ce décalage.
Alors c'est la faute des femmes?
Non, c'est pas la faute des femmes, mais bon, voilà, c'est l'évolution.
Ah si, quelque part quand même.
C'est l'évolution de la société qui se fait à son rythme. Mmh. Donc oui, effectivement, les femmes, elles ont peut-être une longueur d'avance parce que l'émergence de ces qualités, c'est vraiment une amplification qu'il y a déjà dans le féminin. Et les hommes, ça émerge au fur et à mesure et ça commence à prendre sa place. Et aujourd'hui, ça doit vraiment se manifester dans la société et qu'on puisse le voir, que ce soit... Je vais peut-être un peu loin, mais en même temps, j'espère que c'est proche. Ce serait bien. C'est dans la politique de voir soit des hommes avec d'autres qualités ou qui expriment autre chose, ou alors des femmes.
Ouais, mais là, c'est compliqué. Mais bon, les femmes en politique, elles sont plus nombreuses que nous. Donc, si elles voulaient changer les choses, il suffirait de voter pour des femmes.
Plus nombreuses.
Bah oui, dans la population, il y a plus de femmes que.
Ouais, c'est ça, dans la population. Après, ce serait bien de les voir à la tête du gouvernement aussi.
Ah bah oui, mais c'est à vous de bouger, c'est à vous de voter pour des femmes. C'est souvent les femmes qu'on voit en politique ressemblent plutôt à des hommes plus qu'à des, ouais. qu'à des femmes.
Après de dire que c'est à vous, je pense que c'est quelque chose aussi qui se fait à deux. C'est-à-dire que les hommes et les femmes doivent se soutenir dans cette évolution.
Bien sûr, oui.
Je veux dire, l'émergence du féminin, elle se fait aussi parce qu'il y a les hommes à côté qui les soutiennent dans cette élévation. Et c'est aussi grâce à ce changement de conscience chez les hommes que les femmes, elles vont pouvoir ancrer cette nouvelle puissance, je dirais, que ce soit visible dans la société aujourd'hui. Donc c'est aussi grâce à l'ouverture de...
Mais qu'est-ce qu'elles peuvent apporter de plus? Puisque on a vu des exemples malheureux comme Margaret Thatcher ou en ce moment Angela Merkel, c'est pas des bons exemples de... Ou même Hillary Clinton, je pense pas que ce sont des bons exemples de réussite, de changement de conscience au niveau mondial, quoi.
Alors moi je vais pas juger, je vais pas dire que ce soit bon ou mauvais, mais je vais juste dire que la conscience aujourd'hui c'est pas ça, quoi, c'est autre chose.
Alors qu'est-ce que ça doit être pour vous?
Pour moi personnellement, hein, mais je parle aussi de ce qui peut représenter le féminin divin. C'est l'authenticité, c'est la bienveillance, c'est la compassion, c'est des valeurs qui passent par le cœur. Mmh. Alors que les femmes que vous venez de citer, bah, c'est leur valeur, c'est quelque chose qui va plus se rapprocher de la puissance des hommes.
Mmh, bien sûr, oui.
Dans la prise de pouvoir qu'elles vont avoir. Alors que là, aujourd'hui, ce dont on a besoin, ben, je vais vous parler de Hama, parce qu'elle est bientôt à Paris, dans une semaine. Mais c'est aussi ce que le Dalai Lama peut promouvoir avec le bouddhisme. Donc, toutes ces valeurs de compassion et de maturité. Et il y a une phrase qui me touche beaucoup, c'est « Le monde sera sauvé par la femme occidentale ». Donc ça, c'est le Dalai Lama qui
occidentale.
Dit ça. Voilà, donc occidentale.
Et c'est dommage pour les autres.
C'est dommage pour les autres, c'est vrai. Moi, je me suis demandé aussi pourquoi occidental. Et je pense qu'il y a quelque chose qui fait que les femmes occidentales, elles ont cette capacité, peut-être plus rapidement et plus facilement, de prendre leur place dans le changement de la société. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on attend de nous et c'est aussi ce que la planète attend de nous. Je veux dire, on n'a plus de temps à perdre. Ça, il y a tout le monde qui le dit, que ce soit Pierre Rabhi ou Mathieu Ricard. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait un switch qui se fasse.
Donc, alors, vous y croyez? Vous êtes optimiste?
Ouais, je suis optimiste. Je suis optimiste parce que ça a déjà commencé à changer. Et aujourd'hui, ça se réveille de plus en plus et de plus en plus vite. Et
qu'est-ce que vous, pour vous, quels sont les signes du changement?
Toutes ces manifestations de désir, de vouloir créer un monde nouveau. Et ça passe aussi par des rassemblements de méditation pour la paix. Et quand je dis manifestation, c'est pas des manifestations dans le combat, dans la lutte ou dans des guerres ou des conflits, parce que c'est pas de ça dont la planète elle a besoin. C'est vraiment des rassemblements, des communautés, quelque chose où le message c'est tous ensemble, qu'on puisse se rassembler et créer cette ouverture de paix à l'intérieur de nous-mêmes. Et de bienveillance et d'amour, mais c'est vraiment...
Alors tout ça, c'est très très féminin, alors quel est le rôle des hommes dans tout ça?
Non, c'est pas que féminin. Non, c'est pas
ah
que
bah
féminin.
Ah bah si, c'est que ce sont des valeurs féminines, vous venez juste d'en parler il y a quelques instants.
On peut mettre... on peut les qualifier de féminines, mais quand on voit, je reprends encore cet exemple, Mathieu Ricard ou Pierre Rabhi ou...
Oui, enfin, on parle d'un vieil homme et d'un bouddhiste, donc c'est pas des gens qui sont dans la réalité active d'aujourd'hui, quoi.
Ok, pour vous c'est pas la réalité active, mais non, mais pour moi c'est vraiment la conscience d'aujourd'hui.
Bien sûr, bien sûr.
Des hommes qui ont eu.
Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord.
D'accord.
Je suis tout à fait d'accord.
Voilà, donc cette évolution de conscience, ils ont.
Je cherche des hommes qui ont 40 ans, qui font des choses.
Bah moi aussi je les cherche. Hein. Donc voilà. Si vous en connaissez.
Bah justement, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est vous qui êtes spécialiste, pas moi.
Moi je suis spécialiste pour les accompagner. Et voilà.
Moi je vois beaucoup de femmes qui sont. J'interview beaucoup de gens.
Non, il y en a sûrement des hommes de 40 ans, mais là franchement j'ai pas d'exemple en tête et j'aimerais vraiment en voir beaucoup plus. Et voir ces valeurs.
Parce que dans tous ces phénomènes de rassemblement, etc., il y a toujours. Moi, j'en ai vu beaucoup. J'ai reçu beaucoup d'invités. Et il y a toujours un petit côté gourou qui me fait peur, moi. Même si tout ce qui est dit est intéressant, comme disent les jeunes, ça me parle. Enfin, je trouve que c'est assez intéressant. Puis c'est des choses que, contrairement à ce qu'on dit, les gens ne commencent pas à s'éveiller aujourd'hui. Hein. Ils sont. Ça fait des siècles depuis Léonard de Vinci ou depuis la Renaissance, les gens s'éveillent, mais ça va progressivement. Et aujourd'hui, grâce à Internet, bon, les gens peuvent se rassembler, etc.
Aussi, bien sûr.
C'est le seul changement, mais je pense pas que les gens d'aujourd'hui sont beaucoup plus éveillés, évolués qu'il y a 100 ans, par exemple.
Non, mais l'urgence.
Oui,
je dis non parce qu'ils sont pas plus, parce qu'on peut pas faire de comparaison entre avant et après. Je veux dire, c'est des fréquences de conscience qui sont différentes. Mais aujourd'hui, il y a une urgence au niveau de la planète. C'est juste que dans le système dans lequel on est, on peut pas continuer comme ça.
Puis donc, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, les gens sont assez malheureux dans l'ensemble, mais ils vivent beaucoup mieux qu'il y a 100 ans.
Alors ouais, c'est ça où donc on peut regarder...
C'est un peu compliqué. Moi, je préfère vivre aujourd'hui qu'au Moyen-Âge ou au 19e siècle. Quoi.
Bon, ouais, après, qui sait si vous n'avez pas déjà vécu après, c'est vrai qu'on peut regarder ce paradoxe en face en disant que les gens, sont plus malheureux et d'un autre côté, qui vivent mieux. Donc mieux si c'est ce côté matériel et de confort. Et puis le côté malheureux, c'est là où on se rend compte qu'éventuellement, il y a quelque chose qui est complètement décalé, quoi. Et qu'on peut regarder d'autres populations comme en Inde ou des pays qui sont qui n'ont pas le confort que nous on a, mais toutes ces valeurs de bonheur et qui passent par le cœur, ils ont cette ouverture et cette joie que nous on a besoin d'apprendre en Occident. Donc effectivement, si on peut réduire ce paradoxe et puis créer une unité, que ce soit par rapport à ces deux aspects et puis aussi entre l'Orient et l'Occident, autant nous on a à apprendre d'eux et que eux voilà, dans bien la sûr, révolution hein. matérielle aussi, ils ont des choses à...
Mais de façon,
ils ont leur révolution aussi.
On le sait que le XXe siècle, c'est Malraux qui l'a dit, sera spirituel. Donc,
ben voilà, ben nous y sommes.
On a été avertis tout le long du XXe siècle.
Voilà.
Alors pour revenir, alors donc l'homme parfait, l'homme, enfin pas parfait, mais l'homme qui se perfectionne.
Oui.
Vous en recevez quand même.
Oui.
Et alors qu'est-ce qui change en eux? Qu'est-ce que vous leur apportez? C'est des gens qui sont malheureux matériellement. Spirituellement.
Moi, je vais pas dire malheureux, mais il y a un questionnement, il y a une recherche.
Bah, qu'est-ce qu'on cherche, nous les hommes?
Ça dépend. Mmh. Hein, ensuite, ça dépend qui on va voir, et puis ça dépend quel homme. Mmh. Mais aujourd'hui,
ceux qui viennent voir, en l'occurrence, c'est le sens de ma question.
Non, mais ceux qui viennent me voir, après, c'est confidentiel. Mais est-ce que je peux parler de
Je ne demande pas de citer de nom.
Voilà, la recherche, c'est quand même la connaissance de soi. Aujourd'hui, comme avant, on est encore dans cette recherche à se connaître mieux soi-même pour avoir une vie qui soit encore plus en alignement avec nous-mêmes et manifester des désirs en une réalité qui nous correspond et qui soit alignée avec ce que l'on est. Et donc, c'est pour ça qu'à un certain moment, ben, parfois, on n'arrive pas à faire seul. Donc, on va voir quelqu'un sur lequel on pense ou on projette ou on sent tout simplement que cette personne, elle va nous aider à faire ce chemin dont on a besoin pour un certain temps et on va bénéficier donc de ces vibrations, de cet accompagnement, que ce soit à tous les niveaux, que ce soit psy ou spirituel ou physique pour un coach physique. Et donc c'est de cette manière qu'on va pouvoir élever notre potentiel.
Alors quand ça se passe une séance, une première séance avec un homme ou avec une femme? Ah oui.
Une première séance,
c'est un dialogue, c'est une recherche que j'ai vu que vous faisiez beaucoup de choses, donc c'est
ça se passe bien, mais après là, voilà, là on passe dans les détails techniques, mais en même temps il y a pas que...
Non mais c'est intéressant de savoir comment vous utilisez votre boîte à outils, comment vous choisissez les différents éléments.
Oui, ok, je comprends la question. Une première séance, ça se passe par un bilan, un état des lieux.
Voilà, ça c'est intéressant.
Oui, alors la première séance, c'est beaucoup d'écoute pour savoir là où la personne elle en est et savoir quel est son besoin, qu'est-ce qu'elle vient chercher, qu'est-ce que moi je peux lui apporter et qu'est-ce qu'elle me demande clairement, là où elle en est, quelles sont ses attentes. Et en fonction de ça, on va pouvoir déterminer ensemble si c'est... des séances de coaching ou alors une thérapie qui va se faire sur un terme plus long ou alors si c'est des outils je parlais de tout à l'heure la reprogrammation de l'ADN qui fait partie d'un outil quantique, donc si ça va être ceci ou alors si je vais pouvoir aussi proposer des séances de méditation. Mais ça, c'est en plus, c'est un espace en plus qui peut entrer dans la thérapie.
Alors, j'ai vu que vous êtes une grande spécialiste du yoga. Alors, qu'est-ce que le yoga?
Merci pour la grande spécialiste.
Ah bah oui, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que le yoga pour vous?
Le yoga, pour moi, c'est un complément à la danse qui me permet de...
Oui, c'est intéressant d'avoir parlé du début, maintenant on comprend.
Oui, parce que là, j'ai été danseuse, je suis passée au yoga... Le yoga, ça m'a permis, et ça me permet encore aujourd'hui, d'être encore plus alignée et centrée dans ma méditation, et pour ma conscience, pour mon mental, l'émotionnel, le physique. Enfin, c'est vraiment cet alignement. Moi, pour moi, le yoga que je pratique, c'est la Iyengar.
Ça veut dire quoi, la Iyengar?
VKS Iyengar, c'est celui qui a créé donc cette technique, et c'est le yoga de l'alignement et la précision. Donc, je fais aussi du yoga artistique, mais ce yoga en particulier m'apporte cet alignement intérieur et extérieur. Que ce soit intérieur, comme je vous ai dit, émotionnel, physique, mental, il y a vraiment une paix et un alignement qui se crée qui est perceptible, qu'on ressent. Et au niveau physique, au niveau également de la structure du corps, au niveau de du réalignement du corps, que ce soit par les muscles, ensuite par les os...
Les os, carrément.
Oui, parce que
mal alors.
Non, mais ça se fait pas en une séance, ni en ni en un mois, mais c'est vraiment sur la durée, on peut vraiment.
C'est très physique comme yoga.
Ouais, c'est un yoga qui est. Bon, c'est très physique parce que c'est un yoga qui est dynamique, mais c'est aussi un yoga qui est thérapeutique. Parce que, effectivement, ça répare, ça réaligne, ça apporte. Beaucoup.
Et par rapport aux autres yogas, c'est le plus puissant selon vous?
Je connais pas beaucoup d'autres yogas. parce que j'ai pas expérimenté beaucoup de choses. Moi, j'ai suivi mon intuition pour faire cette formation de prof. Et mon intuition, elle m'a amenée directement là. Et puis, donc, j'ai pratiqué ce yoga et c'est vraiment ce qui me correspondait et ce qui continuait à me correspondre. Là, aujourd'hui, j'ai complété avec un yoga artistique qui intègre la danse, la féminité, quelque chose qui est aussi plus dans la rondeur, la douceur, la sensualité. Que le yoga Iyengar, c'est quelque chose qui va être plus dans l'énergie yang, plus de technique et plus...
Alors ça ressemble à quoi? Parce que là, on est à la radio, c'est difficile, mais...
Ouais, sinon je vous aurais bien montré.
Mais la radio, malheureusement, on va pas voir, mais bon, c'est...
Alors on peut regarder sur Internet ou même sur YouTube, il y a des vidéos de BKS Iyengar où on le voit encore à 90 ans, il a pratiqué jusqu'à 95 ans, il est décédé en 2014. Voilà, il a pratiqué jusqu'à cet âge-là et... Et on peut voir que c'est un homme qui est très dynamique, qui a même été un peu critiqué parce que sa pratique était presque militaire dans ce qu'il a transmis. Aujourd'hui, bon, c'est à nous de l'appliquer. Il y a des écoles qui pratiquent cette méthode Iyengar en gardant ce côté un peu militaire. Moi, je l'assouplis un petit peu pour que ça corresponde plus à mon caractère et à ce que j'ai envie de transmettre.
Et alors aujourd'hui, vous avez plus d'hommes ou plus de femmes ou plus de femmes sur le yoga?
Les deux, mais plus de femmes.
Plus de femmes, oui. Et qu'est-ce que ça change alors? Qu'est-ce que ça apporte de plus aux hommes qu'aux femmes ou...
Bah vraiment, c'est une paix intérieure, un alignement, comme je vous ai dit. Puis il y a toutes les tensions qui se libèrent. Et c'est aussi une reconnexion avec le corps. C'est des personnes... C'est le niveau débutant que je propose. Donc c'est aussi des personnes qui peut-être ont lâché le sport depuis très très longtemps et qui ont besoin de revenir petit à petit à recréer une conscience... avec leur corps. Donc ça commence par le physique, les muscles, les os, mais après, quand je dis la conscience, c'est aussi tout ce qui est des sensations internes. Et ça passe aussi par Shavasana, qui est la méditation finale, la relaxation finale en fin de séance, où là, vraiment, il y a un profond lâcher-prise et un profond bien-être qui se crée. Et c'est magique parce que, en fait, le yoga, c'est aussi, aujourd'hui, on en voit beaucoup, mais c'est aussi une porte d'entrée pour... le domaine spirituel, pour les gens de commencer à s'intéresser à autre chose, à comprendre, à saisir qu'il y a aussi une énergie qui circule dans le corps, qu'il y a aussi des vibrations, et puis commencer à se poser des questions et peut-être ouvrir des livres ou aller plus loin. Quoi.
Mais alors donc, le mental est indissociable du corps, donc c'est difficile de travailler les deux. Vous avez beaucoup de gens qui sont trop dans le sport et passés dans le mental, et des gens qui sont à l'inverse, ça existe beaucoup. C'est-à-dire que vous pratiquez un réalignement sur... entre le corps et l'esprit.
Le réalignement, c'est le bénéfice qui intervient, oui, grâce au yoga. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus dans le mental, surtout à Paris, là, des gens qui travaillent en bureau et puis qui travaillent beaucoup avec leur cerveau. Et on peut constater que parfois, le corps, il est un peu mis de côté. Et donc, il y a besoin de recréer cette connexion pour pouvoir... En même temps, les bénéfices, c'est qu'en repassant par le corps, ça enlève la fatigue, on gagne de l'énergie. Pour une personne qui passe toute sa journée dans un bureau et puis le soir qui arrive fatiguée chez elle, si elle expérimente le sport, n'importe quelle pratique sportive, pas uniquement le yoga, voilà, ça lâche la fatigue et puis ça redonne de l'énergie, clairement, quoi. Et une personne...
ça doit être fatigant quand même. Ça redonne vraiment l'énergie, le yoga, après une journée de travail.
Oui, alors je vous invite à venir. Non, mais bon. Je crois que j'ai pas besoin d'assister. Toutes les personnes qui m'entendent, qui pratiquent, elles se... Voilà, s'il y a autant de personnes qui pratiquent, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Ah. Bon, c'est peut-être récent cet essor qu'il y a en France. Mais quand on regarde aux US, ça fait déjà
plus de
5 ans, 10 ans que tout ce qu'on est en train de voir là à Paris ou en France, eux, ils étaient déjà en train de pratiquer du yoga dans les grandes avenues à New York et c'était des flash mobs de yoga et de méditation. Donc... voilà, c'est...
Alors, on a besoin de faire combien de temps par jour après, une fois qu'on connaît les exercices?
Par jour, ouais. Tout dépend. Pour une demi-heure par jour, c'est un minimum. Mais ensuite, je pense que 2-3 fois par semaine, comme toutes les activités sportives, 2 fois, ça permet de garder les bénéfices de la séance précédente. Et puis 3 fois, ça permet vraiment de constater un réel changement et puis d'avancer.
Donc, ça s'appelle le yoga... Iyengar.
Oui, c'est ça.
Voilà. Eh bien, Angélique, on va marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants.
Ça marche, merci.
Pour que votre vie soit plus belle, tous les après-midi de 14h à 15h, et si on allait mieux, avec François Démier et ses invités. BTLV vous propose de partir à la découverte de votre troisième œil. Dans un lieu unique en France, le Zoom Bien-être de Monco, vivez l'expérience Lucia, la première machine qui permet de modifier les frontières de votre conscience et d'accéder à des dimensions plus vastes. Les 26 et 27 mars prochains, vivez des expériences spirituelles et transcendantales rares et partez pour un voyage vibratoire avec les 27 bols de cristal chantants et autres instruments intuitifs. Attention, il n'y a que 20 places à votre disposition. Pour la réserver, rendez-vous sur btlv.fr, onglet événements. KundaliniPeople.net, le premier site de rencontre entre personnes éveillées. Amitié, partage, amour, rencontrez enfin des hommes et des femmes qui vous ressemblent. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant sur KundaliniPeople.net ou directement sur btlv.fr. Pour que votre vie soit plus belle, tous les après-midi de 14h à 15h, et si on allait mieux, avec François Démier et ses invités.
Et aujourd'hui, la suite est si on allait mieux avec Angélique Thierrier, qui nous parle de ses différentes activités, de son parcours. Donc là, on a vu un peu le début, là on va avancer au cours, puisqu'on a parlé, donc vous êtes coach et sexothérapeute.
Voilà. Oui.
Antoine, j'étais l'ancien. Max.
Oh, l'erreur.
Avait du mal à.
Oh, je suis déçu.
À l'écrire.
Ben oui, j'ai jamais rencontré.
Voilà, ça c'est fait.
Sexothérapeute, quoi.
Voilà, bon, bref, il y aura peut-être des questions tout à l'heure.
Peut-être.
Et donc, on va revenir maintenant à la méditation, parce qu'il y a énormément de types de méditation.
Oui, il y en a beaucoup.
Il y a la méditation guidée, j'avais fait déjà une émission. On a fait carrément la radio.
Ah,
c'était un peu compliqué. Parce que présenter une émission et faire la méditation guidée en même temps, c'est un peu compliqué.
Oui, j'imagine.
Mais alors, quel type de méditation vous faites ?
Alors, moi, celle que je pratique pour moi, personnellement, c'est une méditation tibétaine et ça s'appelle Shamatha.
Shamatha, bon.
Shamatha, voilà, c'est le chemin de la paix. Et en fait, cette méditation, je suis l'enseignement de Pakyab Rinpoché. J'allais dire un gourou, mais... Oui, effectivement, il n'y a pas cette connotation, connotation négative quand je dis gourou, parce que pour moi, c'est vraiment un maître, un enseignant, avec tout le respect qui va avec. Et voilà, même si j'ai commencé la méditation il y a très longtemps, depuis que je suis ces enseignements, c'est vraiment une révélation, quoi. C'est magnifique, et c'est vraiment un plaisir d'être guidé par un vrai maître. C'est un Rinpoché, ce qu'on appelle dans le bouddhisme tibétain. Et cet enseignement, j'en parle parce que je suis tellement ravie, c'est un enseignement qui se passe sur 3 ans. Et Pakyab Rinpoché, lui, a écrit un livre qui s'appelle « La méditation m'a sauvée ». C'est un Tibétain qui s'est retrouvé enfermé en Chine, et puis ensuite qui s'est évadé, qui s'est retrouvé aux US, et en fait, il s'est guéri de sa gangrène par la méditation. Et les hôpitaux aux US, les médecins voulaient l'amputer.
L'amputer.
Et lui, il a pris la décision de ne pas accepter ce que les médecins lui proposaient. Et vraiment d'écouter ce qu'il sentait au fond de lui. Et puis en voyant aussi avec le Dalai Lama directement, le Dalai Lama lui a dit tu peux te guérir et tu peux enseigner aux autres aussi la guérison. Et ces enseignements, la méditation de Shamatha, c'est une préparation à ce que Pakyab Rinpoché va aujourd'hui délivrer par rapport à ce parcours que lui-même a vécu. Donc c'est une très belle transmission parce que ça vient de son expérience personnelle et c'est les médecins aux US après ce qu'il a vécu et puis après sa guérison complète grâce à la méditation de la gangrène, puisqu'au final il s'est réparé lui-même les tissus et les os de sa jambe.
Uniquement en méditant.
Exactement, c'est ce qu'on appelle les pouvoirs de l'esprit.
C'est incroyable, mais alors.
Exactement, c'est ce que les médecins appellent un miracle.
Alors comment, parce que méditer, c'est que pour moi il y a une seule technique, c'est-à-dire on médite. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Quelle est la différence avec cette méditation-là ?
Alors, la méditation, il y a ce qu'on peut appeler la méditation de pleine conscience, où là, on va être conscient des sensations, de ce qui se passe dans le corps, de nos perceptions, d'être en direct avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et puis, il y a d'autres méditations où le principe, ça va être aussi de faire... La clarté à l'intérieur de soi. Et non pas d'être à la... On peut, on va sentir ce qui se passe à l'intérieur de soi-même, mais on va pas s'arrêter sur ces sensations. On va les laisser passer comme des nuages, comme les pensées à l'intérieur de soi. On va les laisser passer. Parce que le principe, là, ce sera vraiment de faire le calme mental, le calme à l'intérieur, et de poser son attention, de poser sa conscience, et de gagner en plus de centrage, d'ancrage, de conscience, comme je l'ai déjà dit. Donc c'est une autre technique que la méditation de pleine conscience, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Oui. Il y a la méditation transcendantale, la méditation zen. Donc je suis pas spécialiste pour vous expliquer exactement toutes les différences.
Mais déjà,
je peux juste vous expliquer celles que je pratique
et les
bénéfices que ça m'apporte. Moi,
alors ça se passe comment? Alors ça dure combien de temps?
Je médite 2 heures par jour.
2 heures par jour, mais c'est énorme.
Voilà, ça fait partie de la pratique et de cet enseignement. Oui, c'est je médite 1 heure le matin, 1 heure le soir. J'en suis très contente. C'est aussi pour ça que j'en parle de cette manière. Et l'enseignement sur les 3 ans, c'est aussi ça. C'est la première année, c'est 2 heures par jour. La deuxième année, c'est 3 heures par jour. Et la troisième année, c'est 4 heures par jour. Et donc, c'est cette préparation qui va nous permettre de préparer à l'intérieur de nous cet espace pour ensuite recevoir ces enseignements.
Donc c'est complémentaire de votre yoga?
C'est complémentaire, mais c'est aussi une pratique personnelle, une discipline que je fais. Quand je dis complémentaire, oui, on peut voir ça. Je peux vous donner une image, par exemple, c'est comme la douche, quoi. On prend une douche le matin.
Voilà, ça dure pas 2 heures.
Ça dure pas 2 heures, mais bon. La méditation, ça va être une autre douche. Le yoga, ça va être pour le physique, et puis. La thérapie, c'est aussi pour notre mental et nos structures mentales, comprendre comment on fonctionne à l'intérieur et ce qu'on fait de nos conditionnements, ce qu'on a pu recevoir de nos parents et ce qu'on reçoit de la société et puis ce qu'on peut transmettre à nos enfants. C'est aussi se poser ces questions-là, la thérapie.
Alors vous avez eu beaucoup de réponses au cours de toutes ces expériences? Parce que j'ai toujours l'impression que les gens que je reçois ou les gens que je croise à travers ces émissions, ils passent souvent de technique en technique et finalement, ils sont toujours au même point, quoi.
Il y en a
beaucoup comme ça, j'ai l'impression.
Ouais, c'est un beau constat. Ouais, ça peut donner cette impression-là parce que de l'extérieur, c'est vrai que parfois,
Donc les progrès sont lents.
Extérieurement, matériellement, ça peut mettre du temps à se manifester dans la matière, mais ça veut pas dire que intérieurement, il n'y a pas des choses qui sont en train de bouger, des transformations qui sont en train de se faire. Et parfois, il y a des choses qui sont très profondes et puis qui vont prendre du temps avant que matériellement, il y ait un vrai changement qui se fait. Et quand c'est pour, par exemple, un changement de vie, que ce soit un divorce, un déménagement ou d'autres choses, mais parfois, c'est des décisions qui ont besoin de mûrir, peut-être pendant plusieurs années. Donc oui, effectivement, c'est pas quelque chose qui est rapide. Et puis, il y a aussi aujourd'hui tellement de techniques, de thérapies qui sont proposées que... Les gens ont aussi cette curiosité, cette envie de découvrir, de tester, de voir. Et parfois, c'est aussi ce qui est dommage, c'est qu'avant même d'avoir eu tous les bénéfices d'une certaine technique ou d'un certain accompagnement, la personne, elle bouge et puis elle va essayer d'autres choses. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on emploie aussi ce mot un peu de supermarché spirituel. Donc, c'est quelque chose qui fait aussi partie de la société aujourd'hui. Donc, c'est à chacun de sentir à l'intérieur, en fait, hein, dont il a envie et la manière dont il a envie d'avancer.
Alors vous, qu'est-ce qui a changé en vous depuis que vous avez l'âge de 15 ans? Vous pensez que si vous n'aviez pas découvert tout ça, vous seriez une autre personne? Et vous seriez plus malheureuse ou moins bien ou...
Oh là là, bonne question. Je crois que j'ai vécu... Ça me renvoie à mes 15 ans, là. Je pense que ce que j'ai vécu, en fait, c'est suffisamment d'événements... Voilà, et puis aussi des événements douloureux, hein, comme beaucoup, qui font que ça nous parfois on n'a pas le choix et on choisit une direction. Et puis d'autres fois, on le sent, c'est à l'intérieur de soi, c'est notre intuition qui nous dit c'est ça qui est juste et c'est pas autre chose. Donc je pense que mon âme, elle a choisi de s'incarner et puis au fur et à mesure d'expérimenter et de vivre ça et voilà.
Vous sentez bien, vous êtes heureuse aujourd'hui?
Oui.
Bon, voilà, c'est le principal.
Exactement.
Alors, tout à l'heure, vous avez parlé, comment expliquer? Vous êtes dans la reprogrammation de l'ADN? C'est quelque chose qui vous intéresse? Alors, vous le pratiquez vous-même? Parce que ça me semble un peu compliqué quand même.
Donc oui, je le pratique moi-même. Donc c'est.
Mais par de la bioresonance, par des appareils ou?
Non, c'est pas ça. En fait, je l'ai pratiqué moi-même. Je suis allée voir une thérapeute qui pratiquait cette technique. Et ensuite, je marche beaucoup à l'intuition, hein, comme je vous l'ai dit, et j'ai senti 2 ans après que moi-même, je devais me former. Et donc, cette formation, c'est Kish Aurier, d'une Canadienne qui est naturopathe, médecin intuitif, qui pratique cette technique, qui la transmet. Et cette reprogrammation de l'ADN, en fait, elle permet vraiment, grâce à l'intention, grâce à la parole. Et aujourd'hui, il y a des études russes, des études scientifiques qui le prouvent. Donc, c'est pas uniquement des faits, invisibles.
Ça reprogramme, vraiment... mais ça ne change pas l'ADN.
Ça le reprogramme.
Ça le change pas. Ou ça le change.
C'est pas quelque chose qui va le changer. Ça va reprogrammer les empreintes qu'il peut y avoir dans nos cellules. C'est comme la mémoire de l'eau. Il y a ce Masaru Emoto qui a fait des tests et on voit très bien les cellules de l'eau, en fonction de ce qui est envoyé comme intention, de voir comment l'eau, elle réagit et les formes qu'elle va prendre.
Non, je pense que la question, parce que s'il y a des criminels qui changent leur ADN, après, ça peut être dramatique.
Non, mais là, c'est pas du clonage, hein, ouais. Ça n'a rien à voir du tout. Non, c'est grâce à la parole, on va envoyer des programmes de bienveillance ou d'autres programmes qui vont nous permettre de créer de l'espace dans des choses qu'on aurait dans nos mémoires, dans nos empreintes, qui aujourd'hui ne sont plus utiles. Ça peut être des mémoires d'anciens traumatismes ou des choses qui ne nous sont plus utiles aujourd'hui.
Mais vous pensez que tout est enregistré donc dans l'ADN? Tout ce qu'on a vécu
Ouais. Oui, je le pense. Et puis aujourd'hui, c'est prouvé. Donc, voilà. Il y a juste à regarder sur Google et puis à chercher les infos. C'est scientifiquement prouvé.
Alors comment ça fonctionne? C'est uniquement par la pensée? Alors c'est...
Non, c'est vraiment tout un protocole avec un test qui se fait. C'est un test de kinésiologie, donc la kinésiologie qui est un test musculaire. Je fais ça avec mes doigts parce que effectivement c'est la kinésiologie avec les doigts. C'est comme si on avait un pendule dans la main. Mais là, en l'occurrence, c'est les doigts. Je me connecte à l'essence de la personne, l'intelligence innée de la personne qui est en face de moi.
Comment vous faites ça?
Simplement par l'intention.
Ouais.
Voilà, je me connecte à l'intelligence innée de la personne.
Ouais. Et ça marche avec moi?
Oui, c'est comme un... Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté des tests de kinésiologie.
Non, voilà, pas
c'est
du tout.
Un test musculaire. Mmh. D'accord. Donc là, ça, je vais
comme
tester...
Ça.
Non, ce n'est pas que comme ça, mais bon. et voilà, c'est...
Alors, je fais quoi? Je ne fais rien?
Non, vous faites rien.
Ouais, ça m'arrange.
Je vais tester les infos et puis en fait, il y a un protocole dans des livres, il y a toutes ces informations et ça va permettre de créer le programme dans la séance qui va nous permettre de faire une reconnexion et une amplification de la fréquence de l'essence et un alignement avec son essence et d'amplifier donc cette manifestation pour que dans la vie de tous les jours, cette personne elle puisse avoir des résultats concrets, c'est-à-dire des réalisations comme des synchronicités, des choses qui vont se présenter à elle, mais qui vont être en alignement avec la fréquence de son essence. Et non pas des choix multiples et multiples, mais des choses qui lui correspondent profondément. Par rapport à cette fois-ci, ce sera par rapport donc aux vibrations et ce domaine quantique. Donc, c'est plus uniquement des choix qui sont faits avec le mental ou autre chose.
Mais c'est pas un peu difficile de rentrer comme ça dans... C'est pas intrusif de rentrer comme ça chez les gens?
Non, c'est pas...
Il y a des gens qui le vivent bien ou... Est-ce qu'il y a des fois des gens ont des surprises sur ce que vous leur dites ou...
C'est une proposition, c'est pas
ouais.
Une proposition. Je fais pas d'ingérence en rentrant comme ça dans l'espace de la personne et en lui disant « je vais trouver des choses ». Non, c'est pas ça du tout, c'est vraiment... une connexion aussi qui se fait à deux. Donc, les informations qui vont apparaître dans une séance, c'est ce que la personne, au moment voulu, au moment présent où ça va se passer, qui va avoir besoin de... C'est ces informations-là qui vont avoir besoin de se révéler. Donc, c'est avec ça que ça va nous donner la matière de créer un programme et de libérer ce qu'il y aura à libérer pour cette séance.
Mais ça, donc, ça passe par l'ADN, alors?
Ça passe par l'ADN, oui.
D'accord.
Oui.
Et donc ça prend du temps ou c'est instantané si ça fonctionne bien, si c'est bien connecté?
Ça peut prendre du temps, ça peut aussi prendre plusieurs séances, mais ça peut aussi prendre une ou deux séances. J'ai des exemples, des exemples où ça a été super rapide.
Et quelles sont les demandes qui reviennent le plus souvent avec la reprogrammation de l'ADN? Est-ce que c'est toujours les mêmes choses ou c'est à chaque fois des nouveautés?
C'est à chaque fois différent parce que la personne, elle peut venir avec une demande et avec cette demande-là, on va vraiment élargir et il va y avoir des informations qui vont apparaître et qui vont être bénéfiques pour vraiment comprendre la demande et ce qu'il peut y avoir de sous-jacent à cette demande.
Mais alors une fois que c'est résolu, le problème, ça revient ou c'est bon, c'est résolu?
C'est une bonne question. Là, pour l'instant, j'ai pas eu de choses qui sont revenues, donc...
Parce que souvent, on voit que chez les thérapeutes, les effets sont... Il n'y a pas de miracle, donc il y a des effets sur le moment, ça peut durer une journée, deux jours, et puis après les effets s'estompent. Si la personne ne fait pas les bons...
Oui, c'est sûr.
Ne change pas, le thérapeute ne peut pas changer les personnes. Quoi. Donc,
non, c'est clair, et je ne fais pas de miracle non
plus. Hein. Donc, sur l'ADN, c'est...
Après, ça dépend de ce qu'on appelle effet, je généralise pas, chaque cas est unique, et puis ça dépend de ce qui va se présenter. Mais personnellement, dans les demandes que j'ai eues, j'ai pas eu de retour et de ça a été une évolution. C'est aussi une thérapie, c'est-à-dire qu'à une séance on va traiter quelque chose et puis à la séance d'après ça va être une couche à la fois. C'est comme un voile qu'on lève, la conscience elle apparaît au fur et à mesure, la conscience elle évolue et une couche à la fois, voilà.
Et alors vous, ça vous atteint toutes ces choses ou vous êtes complètement imperméable?
Non, je suis pas imperméable parce que je suis pas j'ai pas une coque sur moi en protection parce que je travaille pas avec ça. Donc et je suis pas atteinte dans le sens atteinte, mais je suis avec la personne, c'est-à-dire que je travaille aussi avec mon énergie, avec ce que je suis, avec mon cœur. Donc c'est aussi grâce à cette ouverture du cœur que l'énergie elle va pouvoir circuler et qu'il va y avoir une création, une co-création qui se crée en séance. Donc c'est cette relation qui va être bénéfique pour la personne qui vient me voir aussi. Donc que ce soit une relation vibratoire ou une relation consciente dans le mental.
Mais alors c'est fatigant pour vous une séance ou
non?
Non,
j'ai vraiment beaucoup de plaisir à pratiquer et une séance c'est pas fatigant pour moi. Non, je suis
parce que souvent on entend qu'il faut se protéger aussi parce qu'il y a des gens qui ont des mauvaises énergies, des mauvaises choses.
Non, pour moi.
J'ai des invités ici qui viennent avec des petits gris-gris avant l'émission, mettent des bougies ou qui font des trucs parce qu'ils ont peur, parce qu'ils disent qu'il y a des entités qui peuvent nous attaquer et tout ça.
Chacun sa pratique, mais pour moi c'est vraiment, je travaille avec mon cœur, je travaille avec l'énergie de, avec l'amour, avec la lumière, et pour moi c'est ça la protection, et c'est-à-dire que je pense que quand on est ouvert et qu'on est dans l'amour, l'énergie, elle se transmute, que ce soit des choses qui viennent et qui sont pas forcément lumineuses. C'est au contact de l'amour et de la bienveillance, ça se transforme, ça change, ça évolue. Et puis, j'ai aussi une pratique, ma pratique de méditation, elle me permet aussi de garder une fréquence suffisamment élevée pour pouvoir continuer à apporter des choses à ces personnes qui viennent me voir. Et puis, c'est-à-dire à rester dans l'amour, quoi, et à le faire vraiment avec le cœur.
Alors, sur votre cas de visite, il y a aussi sexothérapeute. Alors là, c'est le mélange donc du mental, du corps. Enfin, qui a besoin et qu'est-ce que vous proposez en tant que sexothérapeute?
Proposer? Ça fait un peu vendeur, proposer.
on propose, puisque vous n'obligez personne, donc.
Non, j'oblige personne, mais bon, c'est les...
Qu'est-ce que les gens cherchent? On retourne la question. Qu'est-ce que les personnes qui viennent vous voir cherchent avec votre...
C'est des personnes qui peuvent avoir un trouble au niveau de leur sexualité. Moi, la sexothérapie, c'est une des spécifications dans ma formation de psychopraticienne. Et donc, la sexothérapie, aujourd'hui, c'est pas de la sexologie, c'est pas une formation universitaire où on va avoir des cas cliniques. C'est vraiment de la thérapie. Donc, la thérapie, ça veut dire par la parole, c'est la communication. Donc, les personnes qui viennent me voir en sexothérapie sont des personnes qui peuvent avoir des questions ou des troubles au niveau de la sexualité, que ce soit de la pratique ou dans leur pratique, que ce soit au niveau du désir, que ce soit au niveau de plein de choses. Et donc, par la parole, c'est une thérapie qui s'engage et qui permet de comprendre et de lever des voiles, comme je disais, sur, sur les troubles qui ont pu s'installer au niveau de la sexualité.
Et alors donc, vous utilisez, je suppose, aussi le yoga, la reprogrammation de l'ADN, la méditation, non?
Non, j'utilise pas tout en même temps, disons que ça c'est un peu...
Enfin, sur chaque cas est différent, comme je disais tout à l'heure.
Bah, c'est ça, c'est un peu une boîte à outils, et puis voilà, c'est en fonction de la demande, de ce qui se présente, et puis aussi de mon intuition, je vais, grâce à ces outils, je vais aussi pouvoir accompagner la personne. C'est le côté aussi intégratif de ma formation en psychothérapie, c'est pour ça que ça s'appelle psychothérapie intégrative, mais là en l'occurrence c'est autre chose, ça veut dire qu'il y a des outils en psy qui sont comme la gestalt, la psychanalyse, la sophrologie, donc voilà, c'est tout ce côté intégratif qu'on peut retrouver aujourd'hui dans beaucoup de domaines de la vie de tous les jours où on n'est plus dans la séparation ou la dualité, mais c'est vraiment comment on peut intégrer différentes parties et puis être dans l'unité et que ça crée vraiment un complément, une complémentarité.
Et alors les gens, les personnes arrivent à parler de sexualité, de leur sexualité?
C'est pas évident.
Ouais.
Non, c'est pas facile, mais c'est pour ça que c'est une spécification, parce que c'est pas non plus évident d'entendre. C'est pas évident de comment est-ce qu'on peut écouter. Je veux dire, dans beaucoup de familles aujourd'hui, déjà on n'en parle pas, donc... Voilà, ensuite, en parler, c'est pas évident. Et puis, écouter, c'est aussi un métier. Enfin, je veux dire, c'est pas donné à tout le monde. C'est une préparation à l'écoute, à l'accueil. Savoir comment écouter de manière bienveillante tout ce qui peut se présenter.
Et alors là, ce sont plus des hommes ou il y a plus de femmes qui viennent vous voir, je suppose, ou d'hommes?
Il y a des hommes, oui, beaucoup d'hommes.
Vous recevez des couples aussi?
Il y a aussi des femmes, c'est, non. Non, j'ai des collègues qui reçoivent des couples, mais moi, non, je n'en reçois pas.
Donc, alors comment ça se passe pareil? C'est une longue conversation
Longue, c'est des séances d'une heure.
Oui,
et c'est une séance par semaine. La manière la plus régulière et constructive de faire un travail thérapeutique, c'est de le faire régulièrement, une fois par semaine, une heure.
On peut parler de sexe pendant une heure?
Non.
Voilà, donc comment ça se passe? Vous remontez dans l'enfance? Vous remontez sur les différents troubles?
Ça peut arriver. Mm-hmm. Ça part de la sexualité, mais ensuite, bien sûr, on se rend compte que ce qui se manifeste dans la sexualité, ça a souvent des racines et des origines qui peuvent être très éloignées de ça, de cette zone de la sexualité. Voilà, ça peut être effectivement l'enfance, ça peut être les parents, ça peut être... des traumas, des abus, des violences. Ça peut être un conditionnement des parents. Voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent en séance.
Et alors, c'est la sexualité aujourd'hui, c'est quelque chose qui évolue, parce que c'est pas du tout la même chose il y a aujourd'hui qu'il y a. On en parle au niveau, on parlait des femmes au début de l'émission. La sexualité féminine a largement évolué depuis une trentaine d'années.
Oui.
Et ça, vous le voyez dans les gens que vous recevez? Les femmes sont plus libres vis-à-vis du...
Elles sont plus libres et puis elles se posent aussi beaucoup plus de questions sur leur désir. C'est-à-dire qu'une femme aujourd'hui qui n'a pas de désir, elle va chercher à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans sa sexualité. Et je pense que il y a quelques années, ça se voyait peut-être pas autant qu'aujourd'hui. Une femme, elle va avoir envie de reprendre contact avec son corps, avec sa liberté sexuelle, et aussi d'être une femme épanouie. Donc en se posant des questions et en essayant de comprendre s'il y a quelque chose qui ne va pas, alors qu'elle sait très bien qu'elle pourrait avoir des orgasmes magnifiques, de comprendre mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas. Donc oui, effectivement, on peut voir ça chez les femmes, hein. Mais il y a aussi des questions de l'ordre... du couple, du fonctionnement d'un couple. Donc c'est des questions où on voit que le couple aujourd'hui, c'est comment vivre une relation avec plus de conscience, être vraiment ensemble, avancer consciemment et créer une relation belle et authentique, avec un dialogue et une réciprocité dans ce que les personnes peuvent partager, parce que avec cette évolution spirituelle, il peut très bien y avoir la femme qui travaille sur elle, qui découvre beaucoup de choses dans son fonctionnement, sur ce qu'elle est, et puis l'homme pas forcément, et donc des décalages qui se créent. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche vraiment, c'est à partager ensemble, à avancer ensemble. Et comment on peut s'apporter l'un et l'autre, de se faire grandir l'un et l'autre. Et ça passe aussi par cette évolution de conscience dans la relation qu'on crée en couple. Comment on peut co-créer ensemble de manière à se faire du bien et prendre en compte les désirs de l'autre.
Mais est-ce qu'on peut vivre ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de vivre avec du désir ? Est-ce qu'on a vraiment besoin pour vivre de la sexualité ? C'est des gens qui n'ont pas forcément besoin. Il y en a qui ont besoin énormément. Donc chaque cas est particulier. Est-ce que c'est est-ce que vous avez rencontré des gens qui puissent vivre sans aucun désir et qui se portent très bien parce que ils sont élevés spirituellement. Les prêtres par exemple, quelques-uns vivent sans ça.
Les prêtres, effectivement, n'ont pas de sexualité. Après, à savoir...
Ils sont un petit nombre, il y en a beaucoup qui font des bêtises quand même.
Voilà, c'est possible aussi. Mais je pense qu'ensuite, c'est que leur désir, ils le transmutent d'une autre manière. Oui, ça passe juste pas.
Ma question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir du désir, quoi, voilà. Est-ce que c'est vraiment utile dans la vie, quoi.
Voilà, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir du désir? Je crois que c'est... Très philosophique comme question.
Mais de temps en temps, on est...
Oh là là, ça pourrait prendre des heures à répondre à ça. Hein.
On n'a plus beaucoup de temps, donc... on refera une autre émission, alors.
Ouais. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est... Il y a le désir, à savoir d'où il vient ce désir. Est-ce que c'est juste le désir sexuel? Un désir qui passe par l'attraction sexuelle et à ce moment-là qui est uniquement pulsionnel? Ou alors si c'est un désir du cœur qui est affectif, qui est de l'ordre de l'amour. Donc là, ça va être un désir de communion, de partage, d'amour. Ou alors si c'est un désir intellectuel et à ce moment-là, ça va être différentes formes de plaisir. Donc ça va être un plaisir physique ou sexuel ou un plaisir où on va aussi intégrer la dimension du cœur. Et si on peut intégrer aussi en même temps la dimension intellectuelle et de conscience, mais c'est une... C'est une communication magnifique.
Justement, là, je lisais aujourd'hui, par hasard, sur Internet, un article de psychologie qui parlait justement des couples.
Oui.
Et qui disait, c'était l'échangisme. Et il disait qu'aujourd'hui, il y avait de plus en plus de gens qui allaient vers ça. Parce que des couples qui étaient en difficulté. Et que, bon, je vais résumer l'article très vite, mais en gros, ce qui ressortait de l'article, c'est que les femmes étaient beaucoup plus demandeuses, finalement, au bout d'un moment, elles prenaient beaucoup plus de plaisir à ça que les hommes qui restaient plutôt dans le schéma jalousie, etc. Donc, visiblement, les femmes évoluent beaucoup là-dessus et les hommes doivent finalement se méfier, quoi, finalement. C'est la sexualité en train de changer, quoi.
D'accord, alors je sais pas comment on peut constater ça.
Ils ont fait des études, il y a à peu près 400 000 personnes en France qui pratiquent.
Ok, d'accord.
Il y en a de plus en plus, donc c'est un genre sérieux, Psychologie Magazine, donc c'était pas...
Oui, c'est bien si les femmes elles s'ouvrent à la curiosité, c'est super, parce que moi j'ai aussi souvent entendu que c'était les hommes qui proposaient
aux
femmes.
Au départ, ils se sont rendus compte, ce qui s'explique dans l'article, au départ c'est ce qui se passe, et qu'après les femmes en prennent du goût et vont de plus en plus loin, et c'est les hommes, je trouve, un petit peu...
Lésés, c'est eux qui ont besoin de venir voir un...
Voilà, et confrontés un petit peu à la jalousie qui revient, quoi, finalement.
La jalousie. Bon, ça peut être une bonne chose, alors, si c'est la jalousie, si c'est quelque chose qui peut... leur permettre d'avancer dans le couple et puis de consolider peut-être une relation. C'est super. Hein. Mais voilà, l'idée, c'est de partager aussi les choses ensemble et de voir comment que la communication, elle peut rester dans l'harmonie des deux côtés. Parce que si la femme, elle vit des choses de son côté et puis que l'homme à côté, il est un petit peu abandonné,
c'est pas drôle.
Ouais, c'est ça.
Eh bien, Angélique, voilà, c'est passé très vite. Merci à vous.
On a pu voir
votre parcours et vos différentes activités.
Merci beaucoup.
Vous voyez, ça a été facile.
Ouais, c'est bon.
Donc, vous avez un site internet, j'ai pas mes lunettes, c'est
urbanyogaparis.com.
Bon, on le mettra sur notre site, donc les gens pourront vous contacter s'ils ont été intéressés par l'émission. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci.
Pour contacter François Démier, envoyez un mail à françois@btlv.fr.
Alors Max, toujours aussi silencieux ?
Bah oui, mais là j'avais pas de questions.
Bon.
Désolé.
Bon bah tu sais tout sur la sexothérapie aujourd'hui.
Non, mais je sais pas tout, mais voilà.
Bon, eh bien il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite et surtout restez connectés sur BTLV.
Pour que votre vie soit plus belle, tous les après-midi de 14h à 15h, et si on allait mieux, avec François Démier et ses invités.